certainement. Dès l'enfance, elle est promise à un futur mari et elle épouse à 16 ans un descendant du prince de Tétouan, Ali Al-Mandri, ami de son père, âgé quand même de 30 ans de plus qu'elle. Alors, elle assiste régulièrement son mari dans ses affaires et elle apprend beaucoup de cette façon. Son mari meurt, donc Al-Mandri meurt en 1519 et elle lui succède au poste de gouverneur de Tétouan. Et c'est sans doute à ce moment-là, on pense que c'est à ce moment-là qu'elle a pris le surnom d'Al-Oura, la libre, qui insiste sur son pouvoir souverain. Elle entretient depuis longtemps le désir de se venger après la perte du royaume de Grenade et elle recourt pour cela à la piraterie.
Et donc là, elle va nouer une alliance donc avec Barberousse, qui est un chef corsaire turc, et qui lui parcourt l'est de la Méditerranée, tandis que la flotte de Saïda Al-Oura contrôle tout l'ouest. Et leurs dons sont craints par les Espagnols et les Portugais, tandis que leur expédition devient rapidement une source importante de revenus, grâce notamment aux rançons réclamées en échange de la libération des prisonniers. Alors les chrétiens respectent quand même Saïda Al-Oura, au titre de reine, disposant d'un pouvoir non négligeable en Méditerranée, et avec laquelle il fallait quand même négocier la libération des prisonniers espagnols ou portugais. Alors, ces actions valent à Saïda Al-Oura une telle renommée qu'en 1541, le roi du Maroc, Ahmed Al-Ouattassi, la demande en mariage. Et contrairement aux usages, c'est lui qui fait le déplacement pour le mariage, pour que le mariage ait lieu à Tétouan. Alors, des sources affirment que la gouverneure a demandé ce déplacement pour prouver son intention de continuer à régner malgré tout. Elle continue effectivement à résider, à gouverner à Tétouan, jusqu'à ce que son beau-fils la renverse l'année suivante, en 1542.
Donc, dépouiller ses biens, hein, de son pouvoir, de sa gloire. Le sort de Saïda Al-Oura, et notamment la date et les circonstances de sa mort, sont inconnus. On ne peut pas en dire plus, en fait, ça s'arrête là. Donc, on va aller vers d'autres contrées. Hein.
Voilà, allez.
Plutôt vers la mer de Chine.
Allez, alors pour la mer de Chine, bien sûr, vous avez une petite musique chinoise. Hein, voilà.
Thank you.
Alors, aussi connue sous le nom de Chiang Hai-so ou Madame Qing, Qin Shi, la terreur de la Chine du Sud, on ne connaît pas en fait son véritable nom, a commandé l'une des flottes de pirates les plus puissantes de l'histoire, si puissante qu'aucune marine n'a jamais pu la vaincre. Alors elle va terroriser les mers de Chine au début du 19e siècle, durant le règne de l'empereur Chia Qing. Elle commande plus de 300 jonques et avait sous ses ordres entre 20 000 et 40 000 pirates. Durant sa carrière de pirate, elle entre également en conflit avec plusieurs nations comme l'Empire britannique, l'Empire portugais et la dynastie Qing. Elle est citée par différents auteurs comme la plus puissante pirate du monde entier, à la fois pour la taille de la flotte qu'elle commande, mais aussi pour avoir finalement sauvé la vie de ses équipages qu'elle réussit à faire admettre au sein de la bureaucratie officielle chinoise. Les exploits de Qin Shi et de ses hommes sont relatés dans de nombreux romans, des jeux vidéo et des films sur la piraterie, ainsi que le mode de vie en Chine. Du fait de son influence et de la taille de sa flotte, qui comprend à son apogée entre 1500 et 1800 navires, donc c'est pas rien quand même, hein, une sacrée flotte, ainsi que 80 000 marins, elle est considérée comme l'une des pirates ayant le plus marqué l'histoire.
Ouais, on sait assez peu de choses hein, sur la jeunesse de Qin Shi. Elle serait née en 1775 dans le Guangdong, une province côtière au sud de la Chine, au sein d'une famille pauvre. Dans les récits, elle apparaît d'abord sous les traits d'une prostituée, une jeune prostituée cantonaise du nom de Xiang. Xiang. Alors qu'elle officie au sein d'un bordel flottant stationné dans le port de Canton, elle est capturée par les hommes du pirate Zheng Yi en l'année 1801. Et cette rencontre va radicalement changer sa vie.
Bah oui, hein, quand même.
Les auteurs divergent quant à savoir si la rencontre est fortuite ou si Zheng Yi cherchait une épouse. Celui-ci avait pour amant Sheng Po Tsei, un marin de sa flotte, et Zheng Yi se décide à demander en mariage notre jeune prostituée. De son côté, Qin Shi comprend rapidement l'intérêt qu'elle peut porter de cette union avec le chef des pirates. Elle lui donne donc son accord, mais elle a le sens des affaires, donc elle pose ses conditions et elle veut tout simplement pouvoir commander l'une de ses flottes. Zheng Yi accepte, le mariage est donc célébré en 1801. Par un contrat formel, Zheng Yi permet à son épouse quand même de contrôler une partie de sa flotte et lui offre 50% des parts.
Généreux.
Quand même, hein, beau gosse. Elle a également le droit d'intervenir dans l'administration de toutes ses affaires, dans la gestion du trésor de la flotte et dans le commandement des hommes et des femmes de la flotte. Enfin, elle est toujours contractuellement le bras droit de Zheng Yi et participe aux décisions stratégiques quant à la navigation de la flotte et à celles concernant la discipline. Le couple va adopter par ailleurs un fils, Zhang Pao Tsai, qui devient leur héritier légitime. Qin Shi met également au monde deux fils, Sheng Ying Shi et Sheng Eng Shi. Alors bon, au niveau de la prononciation, c'est peut-être un peu approximatif.
Oui, hein, on n'a pas pris des cours de chinois, mais voilà. Ni d'arabe avant, là, mais bon.
On fait ce qu'on peut.
Alors, par la suite, la jeune femme va gagner rapidement le respect des hommes d'équipage et va participer pleinement à la direction des activités de la piraterie avec son mari. Alors, son accession à un poste de commandement est facilitée par la place qu'occupent alors les femmes au sein des équipages. En effet, il n'est pas rare à l'époque de voir des femmes de basse classe sociale occuper la fonction de matelot, contrairement au concept occidental selon lequel le monde maritime serait exclusivement masculin et dominé par les hommes. ce qui permet la présence de nombreuses femmes à bord. De plus, les pirates sont souvent des habitants du littoral appauvri qui changent totalement de vie et embarquent définitivement avec toute leur famille pour une nouvelle vie. Donc lorsqu'elle devient la femme de Cheng Xi, celui-ci commande alors une flotte de pirates qui combat aux côtés des rebelles Tai Tson durant la rébellion vietnamienne. En peu de temps, le couple parvient à rassembler une flotte de centaines de jonques et de dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Et pendant 3 ans, ils attaquent les navires qui sortent des principaux ports de Chine et mettent en échec la marine impériale chinoise. La flotte pirate est divisée en six flottilles pour plus d'efficacité et chacune identifiée par un drapeau. Rouge, jaune, vert, bleu, noir et blanc. Et Cheng Xi commande le rouge. Cette confédération de pirates est unie par un accord écrit et paraphé par les 7 chefs de flotte. Et en 1807, la flotte est cependant prise dans une tempête. Emporté par un vent violent, Chen Yi est projeté par-dessus bord et meurt en mer. Désormais veuve, Cheng Xi se retrouve à la tête d'une coalition d'au moins 400 navires et 70 000 pirates. La plus grande flotte pirate de tous les temps, également surnommée la flotte au drapeau rouge. Voilà, on vous a mis une petite chanson. Qui n'est pas vraiment une chanson de pirate.
Mais qu'on a chanté en voilà, son temps.
Voilà, mais voilà, qui nous plaît bien et qui se passe quand même en Chine. Hein. Voilà. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Sur le Yangtze Kiang et c'est une chanson de Charles et Johnny qui a été éditée en 1933.
Les faubourgs de Pékin, on rencontre des apaches qui ont un petit air coquin
et du riz sur les moustaches.
Le soir quand sonne minuit, qu'elle est sur le bord du fleuve, ce couple qui va sans bruit
comme une couleuvre.
C'est le jeune tulipan qui va faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yangtze Kiang. Il est très turbulent, c'est une mauvaise tête, il amène la pauvrette sur le Yangtze Kiang.
Il lui dit tu seras ma gosse, je serai ton petit chinois, avec fraîcheur et parence, car j'adore ton petit minois.
Minet, minois, chinois, sournois.
C'est le jeune tulipan qui va faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yangtze Kiang.
Mais un cri perce la nuit.
Ouh.
C'est la barque qui chavire, la barque qui ensevelit le couple en délire. Car Tulipan, ce filou, en séduisant la pauvrette, lui a dérobé ses bijoux pour payer ses dettes. C'est un drame angoissant sur les bords du fleuve, c'est le fleuve qui s'abreuve de gouttes de sang. Le chinois frémissant poignarde sa gosse, puis il part faire la noce loin du Yangtze Kiang.
Et malgré tout ce carnage, et malgré ce jour maudit, il gagne, arrive à la nage, et fait sécher ses amis. Car le jeune tulipan, pour payer ses dettes, a tué sa gigolette sur le Yangtze Kiang.
Couplet moral. Mais un soir, plein de ramas, tulipan dans la misère, voulut se donner la mort en mangeant du verre. Comme il n'était habitué qu'à ne bouffer que des briques, le verre pilé ne l'a pas tué.
Il a foutu la colique.
C'était le tulipan qui allait faire la fête. Il amenait sa gigolette sur le Yangtze Kiang. Il était turbulent et très mauvaise tête. Il amenait la pauvresse sur le Yangtze Kiang.
Il disait, tu seras ma gosse, je serai ton petit chinois. Avec toi je réparose, car j'adore ton petit minois.
Minet, minois, chinois, sournois.
C'était ce tulipan qui allait faire la fête. Il vient de piquer une tête dans le Yangtze Kiang.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Bon, c'est une vieille chanson.
Voilà, hein, 1933, c'est Charles Trenet, Johnny S.
C'était une autre époque aussi. Bon, alors, on va revenir quand même à Cheng Xi. On peut dire que c'est une excellente stratège. Elle est pas mal, elle est douée quand même. Et par des manœuvres politiques, elle arrive à prendre la tête de la flotte. Selon les coutumes confucéennes, c'est le fils aîné du défunt qui doit hériter de la flotte. C'est la raison pour laquelle elle l'épouse. Selon Yoriko Ashida, cela ne lui était pas nécessaire puisqu'en Chine, la veuve hérite des droits de son époux et Zhang Pao n'est que son amant. Afin de consolider son pouvoir sur la flotte, elle engage une liaison avec son fils adoptif qu'elle avait déjà promu au rang de lieutenant et elle l'épouse. Enfin bref, rien ne l'arrête. Elle fait appel aux membres les plus puissants de la famille de son époux, son neveu Xing Pao Yang et le fils de son cousin Qing Qi, pour prévenir un conflit ouvert. Elle entretient des rapports étroits avec les capitaines des flottes de la coalition et se rend indispensable à leurs yeux. Elle va nommer son second Sheng Po Tsai capitaine de la flotte pour qu'il intervienne dans les cas où une figure masculine serait indispensable. Et ma foi, il va l'assister fidèlement dans cette tâche. Qing Qi élabore un ensemble de lois strictement appliquées. Les ordres sont donnés exclusivement par les dirigeants de la flotte et une chaîne de commandement stricte est mise en place. Les 4/5 du butin sont affectés à un fonds commun de la flotte. Désobéir à un ordre est considéré comme un crime. Si un village aide régulièrement les pirates, c'est également un crime que de le piller. Celui qui vole dans le butin ou viole les prisonnières est condamné à mort. Le viol réduisant la valeur marchande de la prisonnière.
Bah oui, après, hein, c'est moi. Alors, cependant, les pirates peuvent demander l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec les prisonnières. S'ils l'obtiennent, ils doivent, pour les pratiquer, se retirer dans la cale. Les prisonnières jugées belles sont revendues. Celles jugées laides, elles sont simplement libérées. Elles n'ont carrément pas de valeur marchande. Si un pirate a des relations sexuelles avec une prisonnière consentante, il est condamné à la décapitation. Et la prisonnière est jetée à la mer, des poids accrochés aux pieds. Si un pirate déserte et qu'il est repris, on lui coupe une oreille et l'expose au reste de l'équipage, pour l'exemple. Et enfin, si un pirate de la flotte se marie, il doit obligatoirement être fidèle. Alors, l'application de ce code amène à la fois une plus grande discipline et une transformation des rapports entre hommes et femmes au sein de la flotte. La flotte de Qing Qi commet divers actes de piraterie allant du simple pillage de navires marchands au sac de village le long des rivières. Le gouvernement tente de mettre un terme à ses activités en lançant une série d'offensives en janvier 1808 sans succès. Les pirates en profitent même pour capturer des navires impériaux et ainsi renforcer leur flotte. La flotte impériale est tellement affaiblie que le gouvernement doit acheter des bateaux de pêche pour combler les vides. Qing Qi diversifie les revenus de la Confédération des pirates en vendant une assurance de passage sûr aux navires marchands ou en se faisant rémunérer pour escorter des convois. Elle est quand même maline, hein.
Elle est pas mal.
Elle pense à tout, hein.
Elle est pas mal.
Et donc, à son apogée, la flotte de Qing Qi atteint les 1800-1900 navires manœuvrés par 80 000 hommes et femmes. Sa réussite s'explique par la discipline stricte qui règne au sein de la flotte, par l'emploi d'espions à terre et la corruption de fonctionnaires qui renseignent les pirates sur les opportunités de pillage. Et enfin, la flotte se distingue par la présence de femmes au poste de commandement, comme celui de capitaine De Jong, par exemple.
C'est quand même très élaboré.
Voilà, c'est... Bon, alors on vous propose une autre petite musique de pirate, alors là qui n'est pas chinoise, mais peut-être vous rappelez d'un film de Roman Polanski qui s'appelle Pirate, voilà. Et donc c'était une musique de Philippe Sard.
Bon, ben voilà encore quelque chose d'assez guerrier. Alors, Qingxi résiste victorieusement à une offensive combinée des flottes chinoises, américaines et portugaises, quand même. Donc, elle était considérée quand même comme une femme à abattre. La véritable menace contre le pouvoir croissant de Qingxi vient en fait des autres pirates. Opotae, un rival qui est parfois considéré comme le second plus grand pirate asiatique. Bref, Opotae force sa flotte à battre en retraite. Ah ! Et Opotae est quand même inquiet de la revanche que Qingxi pourrait vouloir prendre. Du coup, il demande au gouvernement une amnistie et il l'obtient, pour ses hommes et lui-même. Le gouvernement peut ainsi consacrer tous ses moyens à la destruction de la flotte de Qingxi. Et celle-ci demande à son tour une amnistie en 1810, parce qu'elle commence à avoir peur. Pardon.
Ça devient
un peu chaud, oui. Alors, le gouvernement chinois n'a guère le choix, parce que de toute façon, c'est vrai qu'elle a quand même... jusqu'ici, elle a toujours été victorieuse
dans ces
affrontements avec la marine impériale. La marine impériale est quand même affaiblie. Enfin, bref, le gouvernement accepte. Et donc, le 18 avril 1810, il y a négociation avec le gouvernement. Et donc, Qingxi sort de ses activités criminelles. Et elle négocie pour elle et l'ensemble des hommes et femmes de sa flotte. Et donc elle négocie avec les gouverneurs du Guangdong et de Macao. Elle obtient satisfaction, plus la possibilité de garder une flotte d'une centaine de jonques, une place de haut rang pour sa famille. Une certaine somme est attribuée à chaque pirate qui arrête ses activités et il aurait même offert de s'engager dans la marine. Ah oui, parce que comme ils savent se battre, c'est pas mal de les récupérer. Ou alors, au choix, ils peuvent aussi se retirer dans les terres. Ils conservent également les gains issus de la piraterie.
Pas mal, hein.
Voilà,
c'est des bonnes conditions.
On voit que les deux parties étaient un peu mal à l'aise et mal pris, quoi. Mais il fallait trouver une solution avant. Donc la reddition a lieu le 20 avril. Chang Pong est nommé lieutenant de la flotte impériale et conserve une flotte privée de 20 à 30 jongles. Alors, voilà, Cheng Po-tsai semble passer le reste de sa vie à un poste confortable dans le gouvernement et diriger un bordel et un cercle de jeu à Canton. Il y en a d'autres qui, selon d'autres, il aurait d'autres activités. Bon, enfin, c'est un peu brouillon tout ça.
Oui, c'est pas très clair, voilà.
Ils n'ont pas non plus
gardé que des activités illégales.
Voilà.
Bon.
Et donc, Qingxi, en 1839, est recruté comme conseillère stratégique de la province dans le cadre des guerres de l'opium, avant de mourir 5 ans plus tard, en 1844.
Donc la vie de Qingxi, l'ampleur de son pouvoir de décision et de commandement et l'autonomie qu'elle obtint en font un symbole de femme puissante et émancipée. Et donc dans la culture populaire, Qingxi aurait inspiré le personnage de Dame Qing, une seigneur des pirates, dans le film Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Et elle apparaît également dans le jeu vidéo Rock of Ages 3. Ou 3, voilà, Make and Break, en tant que chef des armées et personnage à vaincre dans le mode histoire. Et son personnage est au centre de l'intrigue d'un épisode de la série Doctor Who, la légende des démons des mers,
ouais,
qui a été diffusée en 2022. Voilà. Tu te rappelles de ce passage, toi qui étais une fan de la série?
Effectivement, j'ai l'impression de voir des images, là. Faudrait que je re-regarde pour...
Donc voilà. Alors bien sûr, là on a parlé de quatre femmes. Mais il y en existe d'autres.
Oui, il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà. Bah, par exemple, Alvida, moi je trouve que c'est rigolo. Voilà, c'est peut-être, bon, on ne va pas y passer des heures, mais Alvida, c'est une pirate, donc, du 5e siècle, hein, c'est vieux. Pirate légendaire de ce qui est actuellement la Suède. Hein. Et il y a un moine qui a compilé dans l'histoire des Danois et qui a raconté un petit peu la vie d'Alvida. Alvida s'est lancée dans la piraterie au 5e siècle, après avoir refusé un mariage arrangé avec le prince héritier Alf du Danemark. Déguisée en homme, bien entendu. Oui. Elle s'enfuit avec un bateau en compagnie d'un groupe de ses compagnes les plus fidèles. Donc c'était quand même, il y avait beaucoup de, enfin c'était un groupe de femmes aussi. Hein. Alvida rencontre ensuite une bande de pirates qui venaient de perdre son, enfin leur capitaine était mort, je sais pas comment, mais enfin bref,
par-dessus bord.
Voilà, plus de capitaine. Et du coup, il voit en elle une remplaçante idéale. Elle devait être quand même assez charismatique parce que. Et Alvida était plutôt douée pour la piraterie. Elle a traqué les navires dans la Baltique et elle a causé de tels ravages que le roi du Danemark a envoyé une force pour l'arrêter, quoi, en fait. Ironiquement, l'homme choisi pour diriger les Danois n'était autre que le prince Alf, dont elle avait refusé.
Ah, bah, donc il avait.
Oui, elle ne voulait pas se marier. Voilà. Et alors, voilà, il peut venir se venger de l'affront.